16h, 17h. Tour du monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bonjour, bonjour, on revient sur Beurre FM pour une nouvelle saison du Tour du Monde, c'est la première ce soir. Et le Tour du Monde, comme vous le savez, pour la plupart, c'est cette émission qui vous emmène à la découverte des traditions culinaires et culturelles du Ramadan un petit peu partout dans le monde. Et pour cette première étape du Tour du Monde, on vous emmène au Liban. Alors pour le Liban, il fallait évidemment qu'on trouve un guide compétent pour cela. Et on a choisi évidemment Karim Haïdar. Bonjour Karim, comment vas-tu ?
Bonjour Manuel, très bien.
Pour les quelques auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, Karim, tu es un ancien de la finance, on peut dire.
Ah non, du droit.
Du droit, excuse-moi. Un ancien du droit reconverti dans la cuisine. C'est vraiment une passion qui t'a pris au corps, au trip même.
Ou à l'estomac si on veut, ou au palais.
C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir depuis la sortie de ton livre La cuisine libanaise de Beyrouth à Paris, que tu as écrit avec André Malouf, qui est un très beau livre. C'est une cuisine libanaise authentique, mais tu as une vision moderne de la cuisine libanaise authentique.
Disons que ce livre-là est une cuisine libanaise plutôt authentique, avec très peu, on en met toujours
très peu
de fioritures. Mais l'objectif de ce livre par rapport aux autres livres qu'on a fait, c'est d'encore simplifier, parce qu'on s'est rendu compte que de moins en moins de gens faisaient l'effort de cuisiner, et beaucoup de gens voulaient quand même porter le patrimoine culturel culinaire libanais, et donc on a encore beaucoup simplifié les recettes de manière à ce que les gens puissent avoir des plats typiques chez eux, même sans être des grands cuisiniers.
Ouais. Alors là, le livre s'appelle Cuisine libanaise, mais il y a la petite virgule de Beyrouth à Paris. Alors est-ce que c'est un livre que vous avez voulu avec André Malouf comme un pont entre les cultures, entre le Liban et la France?
Ben, c'est surtout un pont entre la cuisine libanaise et les Libanais expatriés en France.
Ouais.
Et la manière dont on peut cuisiner en France, puisqu'on ne peut pas cuisiner, on n'a pas nécessairement toujours les mêmes produits sous la main. Donc les produits difficiles, très difficiles d'accès, on les a exclus du livre pour trouver leur remplacement français. Donc en fait, c'est la manière dont nous autres Libanais expatriés en France pouvons porter notre cuisine.
Ouais, on s'adapte à ce qui est disponible sur place. Oui.
Voilà, puisqu'André comme moi, nous avons un petit peu cette même histoire de Libanais qui... Nous sommes installés, finalement, exilés depuis très très longtemps en France, qui est devenue notre deuxième patrie.
Ok. Alors, tu as toujours ta boutique à manger, comme tu l'appelles, qui s'appelle Les mots et le ciel. Alors, quelle est la philosophie, pour les auditeurs qui connaissent pas Les mots et le ciel, quelle est la philosophie et comment tu inscris ça un petit peu dans le paysage culinaire parisien?
Alors, les mots et le ciel, tout d'abord, la première chose, parce qu'on me pose toujours la question, donc je me dis que je vais répondre même si personne ne la pose là, c'est pourquoi ça s'appelle Les mots et le ciel?
Parce que
les mots et le ciel, parce que pour moi la cuisine c'est une histoire de partage et de transmission, et que pour la transmission les mots c'est bien utile. Donc ça permet avec les mots de transmettre les différentes histoires de notre cuisine. Ensuite le partage, eh bien je trouve, surtout dans ces temps actuels plutôt durs, complexes pour notre humanité, que une des dernières choses que toute l'humanité partage, c'est le même ciel. D'où le nom Les mots et le ciel. Ça, c'est le point de départ. Donc au moins, ça ramène la cuisine au cœur de ce nom qui peut paraître
juriste,
comme pas un peu bizarre.
Chef et puis poète un petit peu aussi.
Alors après, la boutique, en fait, c'est le lieu où je me sens bien. C'est mon deuxième chez moi, ou peut-être parfois mon premier chez moi, puisque j'y passe énormément de temps. C'est tout ce que j'aime faire autour de la cuisine libanaise. C'est pour ça que c'est une boutique à manger. On trouve tout ce qu'on veut. Il y a un petit peu d'épicerie choisie, de l'épicerie que je fais moi-même. Il y a tous les plats de la tradition, parce que c'est vrai que j'ai été très reconnu et connu connue pour avoir modernisé la cuisine libanaise. Mais là, je repars dans les recettes ancestrales, les recettes de grand-mère. Et c'est ce qu'on a la possibilité de manger autour d'une table d'hôte qui fait, il y a que une seule table, hein, de 8 à 10 places.
Oui, c'est convivial, hein.
Voilà. Donc, c'est table d'hôte le midi, parfois table d'hôte le soir, quand il y a suffisamment de réservations. Et sinon, c'est une table privative. Les gens privatisent, on fait un menu ensemble en fonction de leur goût, de leur événement, de ce qu'ils ont à faire. Et finalement, et c'est ce qui me fait par-dessus tout plaisir, c'est que les gens qui y rentrent, la plupart d'entre eux me disent, tiens, on dirait qu'on rentre chez toi, dans la maison.
On est à la maison.
Et
ouais.
C'est ça que j'aime bien. Et alors, j'y fais aussi, parce que j'aime ça aussi, oui. J'y fais des ateliers de cuisine et même des rendez-vous autour des livres, pas seulement le mien, des livres d'autres auteurs, pour finalement faire tout ce que j'aime.
Bon, alors justement, le seul soir où tu es officiellement ouvert, on va dire, puisque c'est plus un lieu du midi, le seul soir où tu es officiellement ouvert, toujours ouvert, c'est le mercredi. Mais sinon, les autres soirs, on peut privatiser. Il y a, c'est-à-dire que j'imagine, hein, si des gens veulent faire un ftour entre amis ou en famille, faire un iftar par un ftour plutôt, hein,
puisque un iftar tout à fait chez nous.
Faire un iftar libanais pendant le Ramadan, on peut t'appeler, on peut te demander, privatiser.
Tout à fait, on peut privatiser. D'ailleurs, ce soir, j'ai un dîner dans la boutique, donc c'est en fait tous les jours de la semaine, on peut privatiser, sous réserve que je sois disponible et qu'on s'entende sur un menu qui plaise aux clients et qui corresponde à ce que nous servons.
Bah oui,
c'est-à-dire de la cuisine libanaise. Très authentique,
absolument, ce qui fait partie de tes qualités et de ton savoir-faire. Alors, les mots et le ciel, c'est 80 rue Olivier de Serres, dans le 15e. Hein, les gens trouvent ça facilement sur Internet s'ils veulent en savoir plus. Il y a un site Internet, d'ailleurs, où ils peuvent aller regarder un petit peu tout ce que tu fais, la carte, les ateliers de cuisine, la table privative, l'épicerie, tout ça. Et puis, une nouvelle actu, alors, un restaurant où je suis allé dîner, donc, avec Loulouwa Al-Rachid et Marwan Rizk, ça s'appelle Sama. Donc est-ce qu'on peut parler de bistronomie libanaise? Moi, je fais toujours attention quand j'utilise le terme bistronomie, parce que maintenant on le met à toutes les sauces, c'est le cas de le dire.
Oui, certainement, puisque pour moi c'est un bistrot. Alors après, bistronomie si on veut, mais c'est un bistrot. L'idée, justement, c'était essentiellement de créer une autre manière de manger libanais, une manière de manger libanais d'aujourd'hui. C'est exprès que je ne dis pas libanais moderne, parce que on a des recettes extrêmement classiques, on a des recettes revisitées, on a des recettes inventées. C'est en réalité le patrimoine culinaire libanais que l'on propose aux Parisiens dans une version qui correspond à aujourd'hui. Du moins, c'est notre volonté, notre pari, et il suffit de venir goûter pour nous dire si c'est réussi ou pas.
Ouais. Alors, on parlait juste avant de ta boutique à manger, hein, Les Mots et le Ciel. Et il y a un petit lien avec Sama, puisque Sama, ça veut dire le ciel.
Oui, alors croyez-le si vous voulez, mais ce n'est pas du tout fait exprès. Et oui, c'est notre associé Loulouwa, après des mois à chercher un nom, lorsqu'on a trouvé le nom et on s'est entendu sur le nom de Sama, c'est elle, le lendemain, qui nous a dit « Mais vous n'avez pas remarqué que Sama, le mot est le ciel ?» Et effectivement, je n'avais même pas remarqué. On était tellement plongé dedans. Et c'est d'autant plus drôle que tu sais sans doute que Marwan est aussi le dirigeant de restaurant, le fondateur de restaurant japonais cette fois-ci, qui s'appelle Soma.
Soma, exactement.
Et là encore, c'est vraiment une coïncidence assez incroyable.
Oui, d'ailleurs, lui qui est libanais, il a commencé la restauration, mais par de la restauration japonaise. C'est ça,
voilà,
qui est original.
Je crois qu'avant, il a même fait de l'italienne ou de la française.
D'accord, alors ça, je ne le connaissais pas encore.
Il y a fort longtemps.
Oui. Justement, en tant que chef, comment est-ce que tu perçois l'évolution de la cuisine libanaise dans le contexte actuel? Est-ce qu'il y a une cuisine libanaise moderne, que ce soit en France ou à l'étranger, ou dans les pays étrangers où il y a une diaspora libanaise?
Oui, bien sûr qu'il y a une cuisine libanaise moderne. Déjà au Liban, il y a pas mal de gens qui se sont mis à faire évoluer les recettes. Et ça fait un bon bout de temps. Moi, quand j'ai commencé, je faisais évoluer la cuisine libanaise dans mon restaurant, mais je me faisais presque agresser pour ça, parce que personne n'était prêt à ça.
Oui, c'était chez Askini, je crois.
Non, bien avant.
Tout
premier restaurant en 99,
ah oui,
qui s'appelait O29,
ouais.
et Et en fait, à l'époque, vraiment...
Parce qu'à Skinny, tu revisitais aussi certains plats, oui. Mais c'est vrai que tu étais quand même assez tradit. Ouais.
Oui, mais à l'époque, déjà, on acceptait la revisite. Mmh. Il a fallu quand même 10-15 ans à lutter contre les gens qui ne voulaient pas de revisite dans la cuisine libanaise, comme si elle devait rester figée, comme une langue morte, je dis souvent. Et d'un coup, bah voilà, on a toute une nouvelle génération de chefs, que ce soit au Liban, en France, aux États-Unis ou ailleurs, qui arrivent à développer des recettes nouvelles, mais plus souvent, en fait, à ramener des éléments du patrimoine culinaire qu'on ne trouvait pas dans les restaurants, et en les y mettant. Et automatiquement, on se dit, tiens, c'est moderne, c'est nouveau, alors que parfois, un peu comme ce qu'on fait à Sama, en réalité, c'est assez traditionnel.
Ouais, c'est vrai. Alors il y a des choses quand même originales. Hein. Bon, alors évidemment, moi il y a des choses qui ne m'ont peut-être pas paru traditionnelles parce que je les avais jamais goûtées, mais qui sont des choses traditionnelles. Alors c'est vrai qu'il y a une chose qui m'a amusé, c'est un millefeuille aux pommes de terre frites, crème d'ail et piment d'Alep, hein, qui est un espèce d'ovni un petit peu.
Oui, le point de départ, c'était la batata harra classique libanaise, c'est-à-dire les pommes de terre, ail, coriandre, frites en petits cubes. Et Marwan, mon associé, a dit « Ah non, 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 je veux pas de ça ». Et est arrivé, donc c'est une des recettes qui n'est pas du tout de moi, et qui est de lui, est arrivé avec une recette toute faite. Et on a fait goûter les premiers soirs aux clients essais pour voir laquelle des deux recettes préférées. Et ben, ils ont préféré sa recette à mon... grand désarroi, car il faut savoir, si jamais vous venez manger là, c'est une grande chance pour vous de manger ça, parce que ça demande une telle main d'œuvre.
C'est vrai, c'est
qu'on
vrai.
Ne devrait pas économiquement se lancer dans des choses pareilles.
C'est vrai.
Mais finalement, c'est un succès. Et puis toi-même, bah voilà, comme beaucoup de clients, trouve que c'est une des grandes recettes réussies de la carte.
Absolument, ouais.
D'où l'intérêt de travailler
à plusieurs. Tout comme la kefta, parce que, alors, chez Sama, la kefta, c'est une kefta au canard, avec de la dalle, de la sauge, et c'est servi avec du houmous, et ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais jamais goûté auparavant et qui était absolument délicieux. Enfin, en tous les cas, bah, vous pouvez aller voir la carte hein, sur le site samabistro.com pour vous faire saliver en attendant l'heure du ftour, ou de l'iftar plutôt, puisque nous sommes au Liban aujourd'hui avec Karim Haïdar, et n'hésitez pas, allez-y. Alors il n'y a pas de menu spécial pour le ftour, mais la carte en fait elle n'est pas organisée entrée, plat, dessert. C'est vraiment le grand mezzé, comme on peut dire.
Tout à fait. Hein? Ce sont des plats à partager qui arrivent petit à petit. Il n'y a pas de véritable besoin de faire un menu particulier, dans la mesure où il y a tout ce qu'il faut.
Exactement.
De la citronnade ou du sirop.
De la shorba.
En passant par la soupe et en allant vers les différents plats qui plaisent, et notamment les spécialités liées au fromage ou un petit peu plus copieuses. En riz ou viande.
Ouais, en tous les cas, c'est une très très belle cuisine.
Avec des petits beignets à la fin qui sont très très bons. Je ne sais pas si tu as goûté quand
oui.
tu es venu. Voilà, et qui correspondent bien.
Les beignets de yaourt de brebis, voilà. Et sirop d'orange.
Et qui correspondent très bien au type de dessert des iftars.
Absolument. Et alors oui, je ne l'ai pas cité, mais ça j'ai adoré aussi, le bezré. Donc c'est de la petite friture d'anchois, hein, des tout petits anchois qu'on mange entier avec la tête, hein, et avec du sumac et la fameuse sauce tarator, hein, la fameuse
sauce. Tout à fait. Et en fait, c'est un grand classique puisqu'on fait frire des petits poissons comme ça. La seule touche qu'on a rajoutée dessus n'est pas véritablement une touche de modernité, mais un assaisonnement, c'est de mettre du sumac.
Oui, alors le sumac, hein, qui est ce condiment un petit peu acidulé, propre à la cuisine libanaise, enfin levantine.
Le levantine en général, ouais. c'est la baie d'un arbuste pilé, séché, qui est rouge et qui est plus ou moins belle qualité. Quand elle est de belle qualité, c'est magnifique.
Floral, ouais.
Voilà. C'est une acidité différente des autres.
Bon, alors revenons à nos moutons, ou plutôt à notre iftar, avant de rentrer un petit peu dans les traditions culinaires du Ramadan au Liban. Parlons un petit peu de traditions culturelles. Est-ce qu'il y a des spécificités culturelles au Liban dans la pratique et le déroulement du Ramadan?
Alors, il y a bien entendu, il y a des spécificités par rapport aux recettes utilisées, plus que par rapport au déroulement.
Ouais,
le déroulement est immuable, et les recettes en question, pour moi, elles sont nécessairement levantine, c'est-à-dire de la région entre Palestine, Syrie et Liban, et peut-être un peu la Jordanie, car ce sont finalement les mêmes cuisines, les mêmes habitudes, les mêmes gens. Je rappelle quand même à toute fin que la partition de nos pays en plusieurs pays a été faite par un Français et un Anglais autour d'une carte avec un stylo.
Oui, le Liban, c'est aussi le Levant, donc il y a beaucoup de traditions communes.
Les traditions sont tout à fait communes, mais la tradition en elle-même est souvent commune. La cuisine, bien entendu, va être différente de la cuisine du Maghreb, de la cuisine et des autres cuisines.
Ouais. Alors, je te propose qu'on fasse une petite pause et on se retrouve tout de suite pour entrer un peu plus dans le vif du sujet par rapport aux traditions culinaires et culturelles du Ramadan au Liban avec notre invité Karim Haïdar. Chacun son tour, non, c'est pas la semaine. Le tour du monde, ça reprend tout de suite après une pause.
Tour du monde revient dans un instant. 16h, 17h. Tour du monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans le tour du monde. Aujourd'hui, on voyage au Liban avec notre guide d'un jour, Karim Haïdar. Bonjour Karim. Rebonjour pour ceux qui arrivent seulement maintenant. Hein.
Voilà, on est toujours là.
On est toujours là. Bien, on parlait, là, on avait commencé à parler un petit peu des traditions culturelles du Ramadan au Liban. Alors, c'est vrai que le Liban, c'est un pays qui est vraiment multi-religieux. Comment les traditions du Ramadan favorisent-elles le dialogue interreligieux, justement, au Liban?
Alors c'est toujours un peu
touchy pour parler anglais.
C'est un peu difficile et pas difficile à la fois. La première chose, c'est ce qu'on voit effectivement au Liban, c'est que bien sûr il n'y a que les musulmans, et en tout cas certains musulmans, les pratiquants qui vont faire le Ramadan, donc notamment jeûner, mais ils vont conviés généralement au iftar.
C'était le sens de ma question.
Voilà, ça, ouais. Beaucoup de leurs voisins qui sont d'autres religions et donc qui vont venir respecter avec eux ce moment-là et venir communier avec eux finalement. Donc bien sûr que ça crée quelque chose. Et il y a eu pendant très très longtemps un véritable respect naturel où on faisait attention les uns aux autres, c'est-à-dire où on ne passait pas son temps à manger ou boire devant les personnes qui faisaient le Ramadan, même s'ils étaient d'une autre confession que vous, parce que vous-même, vous ne faites pas le Ramadan, etc. Je pense que dans la situation actuelle, ça a un peu changé. Parce qu'il y avait aussi quelque chose, c'est que au contraire, moi, j'ai connu beaucoup de familles dans ma famille notamment, des gens qui faisaient le Ramadan, mais qui, quand ils recevaient quelqu'un dont ils savaient qu'il ne faisait pas le Ramadan, soit parce qu'il n'était pas pratiquant,
il lui servait à manger,
lui offrait à boire, etc.
Donc l'impact du Ramadan sur la vie sociale, communautaire au Liban, tu as l'impression qu'il s'est un petit peu étiré
Je trouve qu'il commence à y avoir, malheureusement, des gens qui regardent les autres en disant « moi je fais le Ramadan, tu dois me respecter mon Ramadan et mon jeûne ». Alors qu'avant, les gens respectaient naturellement et ceux qui faisaient le Ramadan n'attendaient rien des autres, ils le faisaient uniquement pour eux.
Oui.
Mais ça, je pense que c'est quelque chose de sociétal en général qui n'est absolument pas lié au Liban.
Les crises et les guerres qu'ont connues le Liban avaient eu pour effet, c'est vrai, de rapprocher les gens, quel que soit c'est vrai qu'il y a eu des crises qui ont rapproché les communautés et les religions différentes du Liban, et petit à petit ça les a peut-être un peu plus séparés, non?
Je pense qu'il y a les deux. Hein. Il y a des rapprochements parce qu'il y a des gens qui ont des communautés d'idées, et il y a des séparations parce que justement il y a différentes communautés qui parfois ne s'entendent pas. Mais en parlant de cela et en parlant du Ramadan au Liban, je pense qu'il y a une chose qui est fondamental de rappeler, parce qu'aujourd'hui, parler du Liban, on ne peut pas le faire sans parler du fait que nous avons une grande partie de notre territoire, du territoire libanais, qui est bombardé tous les jours. Et des gens qui ont dû quitter leur domicile, qui n'y sont pas, donc qui se retrouvent à 30 kilomètres de là, 40 kilomètres, hébergés par des amis dans le meilleur des cas ou par de la famille, voire dans des situations beaucoup plus précaires. Et pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que d'abord c'est important, mais j'en parle aussi par rapport au Ramadan, parce que le rappel principal, on a cette vision en Europe que le Ramadan, en gros, c'est tu jeûnes et tu fais l'iftar.
Oui.
Non. Le Ramadan, c'est le moment où on pense à toutes les personnes qui ne vont pas aussi bien que nous.
Oui, et puis il y a beaucoup de choses aussi. Au Liban notamment, c'est encore plus large que ça. La musique, la poésie a une place importante pendant le Ramadan au Liban. Il y a beaucoup de choses au niveau culturel, etc.
Bien sûr, mais l'essentiel, c'est de penser à ceux qui vont mal et penser à ceux qui vont mal. Et la raison pour laquelle on jeûne, c'est parce que quand on jeûne, eh bien quelque part, on a l'esprit un petit peu plus acéré, parce qu'on sait tous hein, que la nourriture, quand on fait un bon repas, on est dans un autre état, et on peut réfléchir un peu plus et se rendre compte un peu plus des personnes qui ne vont pas bien. Et les personnes qui ne vont pas bien, bah, ce sont bien sûr, ça a toujours été dans toutes les communautés, à tout moment, en temps de guerre comme de paix, ce sont les personnes les plus pauvres, les personnes qui n'ont pas les moyens de se nourrir, de se vêtir, de se chauffer, d'envoyer leurs enfants à l'école, etc. etc. Mais aujourd'hui aussi, ce sont les personnes en guerre, les personnes qui sont sous les bombardements, les personnes qui sont réfugiées.
Oui, et ça touche pas que les pauvres.
Tout le monde, voilà, et je pense que c'est un moment principalement où le regard se tourne vers là. Et dans les temps de crise, c'est ça qui est intéressant, tout le monde parle de cela, et nous avons eu comme ça au Liban, c'était assez touchant sur des réseaux sociaux, une bonne sœur dans une école chrétienne qui justement a fait un grand message de soutien à la population libanaise du sud Liban, qui était essentiellement musulmane, dans cette période de Ramadan, qui était en pleine souffrance.
Et c'est là qu'il y a le plus de bombardements.
Voilà, il y a un rapprochement, effectivement, qui se fait.
D'accord. Alors, avant de passer aux traditions culinaires, je voulais savoir s'il y a une tradition du Ramadan un peu spécifique au Liban qui t'est chère, parce que c'est vrai que quand on s'expatrie, c'est vrai que même s'il y a une communauté libanaise conséquente à Paris, mais c'est vrai qu'on quitte son pays, mais parfois on s'éloigne un petit peu aussi de ces traditions. Et est-ce qu'il y a des choses qui te manque par rapport à la période du Ramadan au Liban, quelque chose, un souvenir comme ça?
Mais je dirais bien, en fait, avec le Ramadan, comme le Ramadan n'est pas saisonnier,
oui,
hein, c'est pas l'hiver ou l'été, donc ce n'est jamais un produit qui va manquer. Alors bien sûr, la première chose qui me manque en réalité n'est pas liée à la distance, mais au fait que la personne de ma famille qui jeûnait véritablement, c'était ma grand-mère. Et que depuis son décès, effectivement, les périodes de Ramadan, je repense à elle, parce que c'était la personne qui jeûnait chez nous. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est très très important finalement dans cette période, et ça c'est traditionnel, mais dans toutes les régions du monde, c'est les gens se rapprochent pour le iftar. En fait, le côté exceptionnel du iftar pendant la période du Ramadan, c'est que les gens sont moins seuls, vont aller retrouver les personnes de leur famille, mais même les amis, même les voisins, pour être ensemble à un moment donné, bon, pour communier finalement autour du iftar. Et c'est ce rapprochement qui pour moi est mes souvenirs de iftar au Liban, où en fait on était très nombreux en famille à se retrouver finalement tous les soirs, alors que même la plupart d'entre eux ne jeûnaient pas, donc ne faisaient pas le Ramadan, mais ils se retrouvaient là pour ce moment particulier.
Ouais, un rôle social, donc.
C'est ce rapprochement.
Alors, ça peut ressouder aussi les liens qui sont un peu distendus tout au long de l'année. Le ramadan va rabibocher, parce qu'on parle pas de fâcherie, mais va renforcer pour l'année suivante.
Va rassembler les gens et créer des souvenirs. Je veux dire, c'est les moments peut-être où on se voyait beaucoup plus entre cousins. Donc, c'est vrai que les cousins, parfois ils sont loin parce qu'ils habitent pas à côté, ils vont pas à la même école, ils se voient pas en tant qu'enfants. Donc, c'est le moment où ils vont se voir un petit peu plus. C'est une occasion comme toutes les occasions, mais c'est une occasion qui est relativement longue en durée, parce que généralement dans les fêtes, vous avez un jour de fête, deux jours de fête. Là, vous avez 28 jours, pas de fête, mais 28 jours successifs pendant lesquels il se passe quelque chose, et cette durée est très importante.
Bon, c'est très bien, et ce sont des valeurs qu'on aime, et qu'on essaye de communiquer à tous. Alors, comme tu me connais un peu, tu sais que pour moi, pour rassembler les gens, rien de tel qu'une belle table bien couverte. Donc, on va refaire une petite pause et on va se retrouver juste après tu nous as fait, je t'ai confié un petit exercice, c'était de nous faire un menu d'iftar, typiquement libanais, avec des choses un petit peu originales qu'on trouve pas forcément dans les restaurants libanais en France, ou qu'on trouve peu. Et donc tu nous as fait un joli menu. Alors on va pas rentrer dans le détail des recettes. C'est vraiment pour inciter les gens à soit trouver une recette, notamment dans tes livres, pour la faire à la maison, ou aller manger ça dans les tables libanaises de la capitale. Mais on va détailler un petit peu ça, et on se retrouve juste après la pause, Karim.
Tour du monde revient dans un instant. 16h-17h, Tour du monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans le Tour du monde, aujourd'hui on visite le Liban, les traditions culinaires et culturelles du Ramadan avec Karim Haïdar. On a parlé un petit peu du côté culture, on a parlé un petit peu de tes actualités et des deux restaurants dans lesquels tu es associé, le Mot et le Ciel et Sama, dont on rappellera les coordonnées avant de nous quitter. Mais là on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je le disais, je t'ai confié un petit exercice, et de nous faire un menu un petit peu original pour parler un exemple de menu d'iftar. Et alors on a commencé, c'est vrai que au Maghreb, la rupture du jeûne, on va boire un petit verre de lait fermenté avec une date, etc. Alors donc au Liban, il y a le Kamar Eddin, c'est ça?
Le Amr Eddin, oui, Kamar Eddin.
Je préfère te laisser prononcer.
Alors nous on dit Amr Eddin libanais, et on pourrait dire Qamr Eddin en arabe un peu plus littéraire, ou Qamar Eddin. Et en fait, c'est la première boisson, puisque comme tu sais très bien, pendant le Ramadan, au moment de la rupture du jeûne, tu commences par manger une date, tradition qui vient du fait que le prophète,
c'est un précepte coranique,
rompait le jeûne avec une date et un verre de lait. D'ailleurs, souvent, ils mangeaient pas beaucoup plus, ce qui montre quand même qu'il y a eu un gros changement.
Oui, c'est vrai.
Le verre de lait, je ne sais pas pourquoi il a un peu disparu. Et en tout cas, au Liban, il est remplacé par des boissons sucrées, un peu épaisses. Alors, c'est souvent le sirop de jalab. Le jalab, c'est un sirop de dattes et raisins mélangés, assez épais. On rajoute dessus des pignons de pain, enfin on rajoutait quand le pignon de pain ne valait pas une fortune, et des raisins secs, et on buvait ça, donc c'était assez nourrissant, et ça permet bien entendu, quand on n'a pas mangé toute la journée, de s'humecter sans se faire mal à l'estomac comme on le ferait avec de l'eau glacée ou quelque chose comme ça, parce que c'est assez épais. Le deuxième, le Amr Eddin, moi c'est...
Alors c'est de l'abricot sec, c'est pas de la date, c'est de l'abricot sec.
Voilà, je trouve ça que très intéressant. C'est une pâte, en fait le Amr Eddin, ça c'est charab, le Amr Eddin, donc c'est la boisson. Mais le Amr Eddin en lui-même, c'est une pâte de date qui est comme des feuilles
d'abricot,
pliées. D'abricot qui sont comme des feuilles pliées, Donc on reçoit des feuilles qui sont pliées, qu'on peut manger avec
5000 feuilles, quoi.
En petits morceaux.
1000 feuilles d'abricot.
Voilà, séchées, donc pâte en pâte. Ça vient généralement de Syrie, justement.
Oui, alors justement, c'est ce que je voulais te dire. C'est vrai que ça, j'avais déjà vu cette boisson. Alors ça, je me souvenais pas du nom, mais dans les traditions syriennes, hein, et notamment pendant le mois de Ramadan pour ses bienfaits. Et alors je sais pas si c'est pareil au Liban, mais en Syrie, on l'accompagne souvent avec des salades fraîches, etc., cette boisson.
Mais là, mais là, pendant le Ramadan, en fait, c'est vraiment la première boisson, donc c'est ce qu'on va boire avant de passer à table. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même, il y a un gros travail dessus, puisqu'on a une pâte d'abricot, et cette pâte d'abricot, on la trempe dans l'eau à l'avance, donc 24 heures ou 48 heures à l'avance, pour se diluer un peu. Ensuite, elle est mixée, passée, et c'est ça qu'on va boire, là encore, avec des pignons de pain. On utilisait beaucoup de pignons de pain dans nos pays. Et ça, moi, je trouve que c'est extrêmement fin comme produit. Et malheureusement, là, ces temps-ci, hein, je suis désolé pour tout, mais à chaque fois qu'on parle de nos régions, on parle de villes détruites, parce que là où on produisait le Amreddin, donc la pâte d'abricot, et dans beaucoup d'endroits, il n'y en a presque plus, parce que la guerre. Dans beaucoup d'endroits, et voilà. Mais ça reste quand même, c'est cette boisson-là. Moi, c'est cette boisson qui m'a marqué.
Tu arrives à trouver l'ingrédient en France pour le faire?
On peut le trouver, mais les qualités ont aussi baissé depuis qu'il y a eu la guerre en Syrie. Ce qu'on trouve est moins qualitatif. Mais étonnamment, en fait, pourquoi ce produit m'a plus marqué que le sirop de jalap que tout le monde connaît, la date et le raisin? C'est que c'est quelque chose qu'en fait on ne boit quasiment que pendant ce mois-là, alors que le jalap c'est une boisson qu'on
boit
toute l'année. Toute l'année.
Alors je parlais du fait que ce Amreddin, pardon encore, hein, pour les gens d'origine libanaise qui nous écoutent, hein, pour la prononciation. C'est vrai que bon, notamment en Syrie mais aussi au Liban, on peut l'accompagner avec des salades.
Mais c'est un nom très joli d'ailleurs, au passage, puisque tu parles du nom, en fait ça me fait penser. Amreddin, ça veut dire la lune de la religion.
D'accord.
Donc quelque part, ça correspond très bien, et sans doute la lune pour cette couleur qui serait la couleur en fait d'une très belle lune, cette couleur orangée.
Quand je parlais de la poésie pendant le mois de Ramadan au Liban, là tu en donnes encore une preuve. Alors avec cette boisson pour ouvrir l'estomac et pour se revigorer aussi, hein, puisque c'est quand même nutritif. Hein,
oui, c'est très sucré.
Donc tu nous proposes, alors c'est un grand standard, un grand classique, mais qui est un incontournable qu'on peut pas négliger, c'est la salade fatouche, la fameuse.
Oui, alors je la propose parce que tout simplement je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de iftars au Liban où il n'y ait pas une fatouche.
Oui.
C'est un incontournable, et elle me rappelle encore une fois quelque chose, on va dire que c'est ma thématique du jour sur ce que nous faisons, c'est encore une fois le respect de la nourriture. Dans la fatouche, il y a une symbolique de respect de l'aliment. Pourquoi ? Fatouche, c'est un mot, là encore, qui vient du mot fatta, qui veut dire à émietter. Mm-hmm. Parce que qu'est-ce qu'on émiette dans la fatouche ? Le pain.
Mais quel pain, qui est grillé.
Non, à l'origine,
il est pas grillé,
on émiettait le pain rassis.
Rassis, d'accord.
Le pain perdu. En fait, la fatouche, c'est le pain perdu en salade.
C'est la pita qui s'est desséchée.
Qui a séché. Qu'on laisse sécher tranquillement,
qui devient croustillante,
et qu'on va réhumecter dans la salade. Et donc cette fatouche, quelque part, elle est très intéressante parce que elle est anti-gaspi, ce qui est quand même important. Alors bien sûr,
mais elle est bonne,
et elle est très bonne. Mais à l'origine, cette fatouche se faisait de cette manière. Aujourd'hui, tout le monde fait griller du pain parce qu'on trouve ça meilleur, etc. Mais là encore, la fatouche, elle a une deuxième symbolique intéressante, c'est que tout le monde, toute l'année, peut manger de la fatouche, alors que c'est une salade. On disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de vraie saison au Ramadan, puisque le Ramadan se décale dans l'année.
Sûr.
Mais la fatouche, sa force, c'est la salade de ce qu'il y a. Chaque maison, chaque famille,
j'ai envie de dire,
chaque saison.
C'est la salade, comment dire, c'est un petit peu le reflet du jardin, quoi.
Exactement. Et donc on prend chaque région, chaque famille a une idée, il y a des gens qui se battent, est-ce qu'on faut mettre de l'ail, il faut mettre ceci, peu importe. Il y a comme ingrédients principaux ce pain. Et ce deuxième élément très intéressant, c'est le sumac, l'épice, le sumac, qui fait la fatouche.
Et le reste, c'est selon la saison. Alors, c'est vrai que c'est, en général, on parle de salade verte, de tomate, de concombre, de radis, d'oignon, mais c'est selon la saison.
Tout à fait. Généralement, surtout du pourpier, qui est un grand classique de la fatouche. Le pourpier ou des herbes, suivant les régions. Par exemple, dans la Béka, c'est plus menthe, persil. Dans le reste du Liban, dans le Mont Liban, c'est le pourpier. Donc, il y a toujours des herbes qui viennent se rajouter dedans. Il y a ce qu'il y a dans le jardin. Et donc, c'est intéressant parce que ça rassemble. Ça veut dire que pendant ce mois-là, toutes les régions du Liban mangent la même salade, mais pas nécessairement avec les mêmes ingrédients.
Ok. Alors, on va passer ensuite à la... Alors, idem, hein, tu me reprends sur la prononciation si nécessaire. Je devrais dire soupe de lentilles, c'est plus simple. On va dire shorbat adas.
Oui, alors... Ça, c'est le grand classique. C'est là encore, on prend quelque chose d'assez onctueux qu'on va manger pour aussi continuer à s'ouvrir l'estomac. Donc la salade, c'est l'élément fraîcheur qui généralement arrive après la soupe, pas avant. La soupe, alors lentilles, pourquoi? Parce que bien entendu, c'est la soupe basique épaisse de chez nous.
Ce sont des lentilles corail, je crois, c'est
alors,
ça?
Alors, ça peut être des lentilles corail, auquel cas la soupe est très facile à faire. Je peux même donner la recette instantanément. Vous prenez...
Non, on n'aura pas le temps, malheureusement.
Vous prenez 150 grammes de lentilles corail, 25 centilitres de jus de tomate, 25 centilitres d'eau, vous mettez à bouillir, vous salez et vous avez votre
soupe. Et c'est
soupe.
Fait.
Voilà.
Ah oui, alors là, tu pouvais, il y avait le temps.
Mais il y a une soupe beaucoup plus compliquée à faire, qui est la soupe de lentilles blondes. Alors, ce sont des petites lentilles blondes. Là, on fait bouillir les lentilles avec plein de choses. Des carottes, des pommes de terre. Et surtout, après, on les mixe et on les tamise. On tamise la soupe. C'est une soupe très difficile à faire. J'ai quelques clients qui me la réclament, mais c'est chaque fois... Enfin, c'est sympathique.
C'est du boulot. C'est
ce qu'on
sympathique,
aime faire.
Mais c'est du boulot.
C'est ce qu'on aime
alors,
faire.
On retrouve des variantes de cette soupe dans la cuisine palestinienne. Alors là, généralement avec des lentilles corail. Dans la cuisine turque aussi, on retrouve une recette similaire. Et j'ai même retrouvé ça au Pendjab, parce que c'est vrai que les lentilles, il y a une recette que j'avais pas percutée sur, mais en préparant l'émission, je me suis dit, mais les lentilles makani qu'on mange au Pendjab, donc qui est la partie musulmane entre le Pakistan et la région musulmane de base entre le Pakistan et l'Inde, on mange ces lentilles makani et c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu international, ce plat. Hein.
Tout à fait, oui. Tout à fait. La soupe de lentilles, déjà voilà, c'est international, mais c'est très servi, effectivement.
Alors, il y a des variantes aussi, parce que parfois on le trouve avec de l'oignon ou de l'oignon frit, selon les
de
régions,
l'oignon frit rajouté dessus, ou de l'oignon dedans,
avec
des épices,
aussi, parfois,
du cumin.
Dedans.
Le riz, très important dans la lentille en général, puisque ça permet d'assimiler, en fait, les protéines qui sont dans les lentilles. Le riz, le mélange riz-lentille est un mélange classique.
Bon, Karim, on arrive à la fin de l'émission. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous lisez les livres de Karim qui sont toujours disponibles. Hein, La cuisine libanaise de Beyrouth à Paris avec André Malouf chez Albin Michel. 176 pages de gourmandise. Et puis, vous retrouvez aussi la cuisine de Karim chez Sama, 5 rue Guillaume Bertrand dans le 11e. Et Les mots et le ciel, 81 rue Olivier de Serres à Paris 15e. Merci beaucoup, Karim, pour ce nouveau voyage au Liban.
Merci beaucoup, Manu.
Allez, à très vite. Restez avec nous pour la suite des émissions. Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun reçoivent leurs invités habituels pour Ramadan & Co. Allez, nous on se retrouve demain pour un Ftour Kabyle.
Retrouvez Ftour du Monde tous les week-ends de 16h à 17h sur Beurre FM et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.